Le temps ne fait rien à l'affaire sur Marmite FM. C'est reparti, comme tous les mercredis, à cette heure-ci. Le temps ne fait rien à l'affaire vous propose pendant une heure un petit tour autour de la chanson. Le temps ne fait rien à l'affaire, une émission préparée, accommodée, mitonnée, mijotée par Jean-François. Le temps ne fait rien à l'affaire sur Marmite FM 88.4.
De fleurs auprès du lit, parmi les livres, la paix qui s'installe ici à cause de toi. Le premier bouquet pour l'enfant que nous ne ferons pas, le second pour le chant des hommes dont nous sommes séparés. Le troisième, parce que tu m'aimes désœillé. Trois bouquets de fleurs auprès du lit, parmi les livres, un jour nous cesserons de fuir. Oh mon enfant, un jour nous nous retrouverons. Je te dirai, tu as vieilli sur une berge triste. Dans le limon, tu es belle et transie. Compagnon, recouvrez notre amour de vos voix humaines. Manteau des révoltes, manteau de laine, celle que j'aime à froid.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle livraison du Temps ne fait rien à l'affaire, l'émission de la chanson vivante sur Marmite FM 88.4. Et ben nous voilà repartis pour une quatrième année avec cette émission que nous consacrons à la chanson française, ou plutôt francophone. Et comme auparavant, nous nous retrouverons donc le mercredi aux alentours de 18h-18h05 pour nos petites promenades thématiques et aussi nos rencontres autour de la chanson. Alors le but est clair dans un cas comme dans l'autre, écouter des chansons, beaucoup de chansons, et plutôt de celles qu'on n'entend pas ailleurs. Et le prétexte est tout simple, je demande aux gens que je rencontre de dresser une liste de 10 chansons qu'ils viennent ensuite nous présenter dans le cadre de cette émission. Alors la liste, ils la construisent selon leurs envies du moment, c'est les 10 plus belles chansons, c'est les plus grandes, celles qu'ils préfèrent, celles qu'ils n'ont plus entendues depuis longtemps, celles qui ont particulièrement compté pour eux, enfin bref, celles qu'ils veulent, celles qu'ils ont envie de nous faire entendre. Nous, de toute façon, on est preneurs. Et alors aujourd'hui, nous avons, pour vous tous qui aimez la chanson, un beau cadeau, un rendez-vous tout à fait exceptionnel avec un très grand monsieur de la chanson, celui dont les 3 bouquets ont ouvert cette émission, Jacques Bertin. Alors bien sûr, en disant que Jacques Bertin est un très grand monsieur de la chanson française, j'ai bien conscience à la fois d'enfoncer une porte largement ouverte depuis ses débuts en 1967, quand les lettres françaises parlaient à son propos d'événements importants dans la chanson française, de grands chefs de file, de ceux qui changent la face de la chanson comme Trenet 30 ans auparavant, ou Brassens 15 ans plus tôt. Mais aussi je sais bien que beaucoup d'entre vous ignorent même jusqu'à son nom. Et oui, c'est ça le paradoxe de Jacques Bertin, immense et méconnu. 40 ans de chansons, une vingtaine d'albums au moins, une qualité d'écriture unique, un parcours marqué par la fidélité de son public, aussi par une rigueur jamais démentie et qui justement le garde éloigné des médias, de ce petit monde du showbiz, petit monde aussi petit que son encombrement est grand de la radio, de la télévision, du spectacle. Jacques Bertin est l'auteur de fortes et magnifiques chansons, c'est un immense chanteur, et puis un homme chaleureux, fervent, mais aussi un passionné de chansons, à qui j'ai donc proposé notre petit jeu de la liste de 10 chansons. Et il nous a reçus chez lui, à Chalonnes, sur les bords de cette Loire qu'il a tellement chantée, pour nous parler longuement des 10 chansons qu'il avait choisies, et plus généralement, de l'idée qu'il se fait de la chanson. Et pour commencer, j'ai d'abord supposé que choisir 10 titres de chansons n'était peut-être pas un jeu si facile.
Ah, si, c'est facile. C'est facile de construire une liste comme ça, parce que si quelqu'un me posait la même question dans un mois, dans deux mois, j'en ferais une autre. Donc là, c'est vrai que ce jeu ne m'a pas été proposé jamais, donc j'ai pris les premiers fruits dans l'arbre, quoi, hein, les plus proches, les plus faciles à attraper. C'est basé quand même beaucoup sur mes souvenirs, donc j'ai rien réécouté de tout ça. Ce sont des souvenirs. Par conséquent, il est possible que je me trompe, que ma mémoire me trompe, il est possible que les auditeurs pensent que j'exagère, ou que c'est pas comme ça, ou etc. Il est même possible que ma mémoire ait reconstruit des faussetés. On ne sait jamais. Les auditeurs découvriront à mesure, mais je trouve que ça n'a pas d'importance, parce que l'idée c'est d'écouter des belles chansons d'abord, mais aussi de donner des pistes de réflexion, et même quand on se trompe, si on le fait de bonne foi et sans en tirer des conclusions tyranniques, c'est pas grave de se tromper. On a le droit dans la vie on a le droit de se tromper, on a le droit d'avoir des fausses idées. Le seul droit qu'on n'a pas, c'est de les imposer aux autres, n'est-ce pas ? Voilà.
Écouter des belles chansons, on était donc bien d'accord sur la finalité de ce petit jeu. Et la première, celle que Jacques Bertin a placée en tête de sa liste, c'est une chanson de Louis Aragon et Lino Leonardi, interprétée par Jacques Doet, « Maintenant que la jeunesse », une chanson qui lui rappelle des souvenirs.
Alors, « Maintenant que la jeunesse », ça se passe comme ça. J'étais un jeune chanteur amateur, semi-professionnel. Je devais avoir 20 ans. Ça se passe à Lille, juste d'après moi, juste avant que je vienne à Paris, dans l'hiver 66-67. Je peux me tromper, hein. Je crois que c'est à peu près ça. Mais je peux me tromper sur les dates. Et il y avait rue Merin, au 125, je dis ça pour les Lillois, et pour les anciens étudiants de la Cato. Il y avait le restaurant universitaire de la Cato. Moi, je faisais l'école de journalisme. Enfin, j'étais censé faire l'école de journalisme ou avoir fait l'école de journalisme. Et au premier étage du restaurant universitaire, il y avait une salle de spectacle où il y avait environ 150 à 200 places, qui étaient toutes cassées, toutes défoncées, bien entendu. Bon. Et donc, c'était le studio. Ça s'appelait, on avait appelé ça pompeusement le studio 125. C'était un copain de l'école de journalisme, Bernard Anet, qui s'occupait de cette salle, qui la faisait tourner très très bien d'ailleurs. C'est là qu'on a vu Félix Leclerc, c'est là que Julos Bocarn a chanté, une des premières fois qu'il chantait en France. On avait fait venir Jacques Marchais, Bernard Anet fait venir Jacques Marchais, Marie-Paul Bell, je me rappelle, et d'autres. Et un midi, comme ça, on était deux, trois ou quatre, là, je ne sais pas ce qu'on faisait là, dans cette salle. Et Bernard Anet arrive et dit « J'ai le nouveau disque de Jacques Doet. » Ah bon, oui. Alors on va le mettre, il s'en va dans la cabine, il pose le disque, donc vinyle à l'époque, n'est-ce pas, sur le tourne-disque, et on entend... Et ça m'a frappé parce que, alors là encore, on vérifiera à l'écoute. Ça commence par un simple accord plaqué à l'orgue Hammond, comme on disait, c'est-à-dire un orgue électrique, quoi. Hein. Et il démarre sans intro immédiatement. Maintenant que la jeunesse, et on était absolument pétrifiés, quoi.
Maintenant que la jeunesse s'éteint au carreau bleu.
Par la beauté du démarrage, quoi. Hein. Et par la gravité du sujet. Et par l'authenticité du propos, quoi. Bon. Alors, donc, c'est un poème d'Aragon, mis en musique par Leonardi. Leonardi, c'est le compagnon de Monique Morelli. Monique Morelli qui a fait beaucoup de disques. Leonardi est mort il y a environ, je sais pas, quelques mois, là, hein, pas très longtemps. Elle, il y a quelques années. Et c'était Leonardi qui accompagnait Monique Morelli à l'accordéon et qui faisait toutes les chansons. Donc il a fait François Villon, il a fait Aragon, il a fait Corbière, il a fait plein de gens comme ça. Et donc, il avait fait cette chanson, Maintenant que la jeunesse, sur un poème d'Aragon. Et moi, ce qui m'a absolument... D'abord, sur le coup, on a été saisi, quoi, par la beauté, mais rétrospectivement, c'est... Qu'est-ce qu'on en avait à foutre ? On avait 20 ans. Et c'est une chanson qui dit « Maintenant que je suis vieux, la vie est belle ». En gros, hein, je vous dis ça. Bon. Normalement, ça ne nous intéresse pas, quoi. Hein. Si j'ouvre ma télé aujourd'hui, on me dit toute la journée le contraire, quoi. Hein. Que les vieux n'intéressent pas les jeunes, que les jeunes, faut leur parler d'affaires de jeunes, et de dynamisme, et de gna gna, et de gna gna, et gna gna. Et voilà. Et en réalité, c'était faux. C'est faux. C'est-à-dire que lorsqu'à quelqu'un de 20 ans, on lui dit quelque chose de grave, il écoute. Et il se sent immédiatement concerné et saisi, quoi. Et c'était ça. On avait 20 ans, et ce texte et cette chanson nous disent des choses qui, en principe, ne nous regardent pas, quoi. Ne nous intéressent pas, quoi. Mais comme c'était quelqu'un d'âge mûr qui nous parle avec vérité, alors là, on était immédiatement... je veux dire, c'est la base de l'humanisme, hein, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez nous dire tout ce que vous voulez, l'humanisme est une donnée réelle, immédiate de la conscience. Quoi. On est dans la même tragédie, quoi. On est dans le même bateau, quoi, hein, de l'âge qui va venir. On n'est pas dupes, c'est pas parce qu'on a 20 ans, quand même. Voilà. Et quand on voit des vieux qui se conduisent bien, ça nous dirige, quoi. Voilà. Bon, c'était ça l'idée, quoi. Hein, voilà.
Maintenant que la jeunesse s'éteint au carreau bleui, maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi. Maintenant que la jeunesse, tu t'en souviens, souviens-t'en. Maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps. Maintenant que la jeunesse détourne ses yeux lilas. Maintenant que la jeunesse n'est plus ici, n'est plus là. Maintenant que la jeunesse sur d'autres chemins légers. Maintenant que la jeunesse suit un nuage étranger. Maintenant que la jeunesse a fui voleur généreux, me laissant mon droit d'aînesse et l'argent de mes chevaux. Il fait beau à n'y pas croire. Il fait beau comme jamais. Quel temps sans mémoire. On ne sait plus comment voir, ni se lever, ni s'asseoir. Il fait beau comme jamais. C'est un temps contre nature, comme le ciel des peintures. Comme l'oubli des tortures, il fait beau comme jamais. Frais comme l'eau sous la rame, un temps fort comme une femme. Un temps a donné son âme. Il fait beau comme jamais. Un temps à rire et courir. Un temps à ne pas mourir. Un temps à craindre le pire. Il fait beau comme jamais.
le premier choix de Jacques Bertin, un autre très grand nom de la chanson, Jacques Douai. Et on retrouve tout de suite Jacques Bertin pour la deuxième des 10, une chanson extrêmement célèbre, mais qu'il a retenue dans une interprétation rare de Félix Leclerc. Cette chanson, c'est le Galérien. Le Galérien, c'est le type même, comme Colchic dans les prés, par exemple, d'une très vieille chanson du folklore qui n'est pas vieille du tout et pas du tout du folklore.
Non, c'est une chanson, curieusement, dont le texte a été écrit par Maurice Druon sur une supposée musique russe. Mmh. Je crois que c'est ça. Peu importe, d'ailleurs. Donc Maurice Druon, bon, qui est ancien ministre de la Culture, il était à Londres pendant la guerre et il avait fait avec Kessel et je ne sais plus qui, Kessel Druon et Anna Marley, donc, dont on reparlera pour la musique. Il avait fait le chant des partisans. Et puis il a aussi fait la complainte du partisan, dont on reparlera aussi. Donc Druon, bon, qui est un écrivain connu, vous voyez bien, un personnage assez pittoresque, on va dire, à mes yeux, avec beaucoup de qualités, beaucoup de défauts. Bon. Alors, c'est pas le lieu de parler de Maurice Druon, c'est simplement que cette chanson a été chantée par Félix Leclerc tout à fait au début. Au début, à tel point qu'il n'y a pas eu de son vivant d'enregistrement publié. Et bon, je ne sais plus comment ça s'est passé, j'ai dû aller faire un tour au Québec, ou je ne sais plus où j'ai trouvé ça. Je n'ai pas recherché, mais bon, c'est tombé comme ça sous mes yeux, soit chez un disquaire, soit chez un copain. Une interprétation par Félix du Galérien de Maurice Druon, qui est une chanson qui avait été chantée par les Compagnons de la Chanson, qu'on connaissait tous quand on était gosses, qui avait été un succès, mais je ne savais pas du tout que Félix avait chanté ça.
Je me souviens, ma mère m'aimait, et je suis au Galérien.
Bon, alors un jour, ici même, je mets ça sur je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, ma machine, là. Et j'entends, dès l'attaque, un peu comme je vous disais maintenant que la jeunesse, dès le premier accord, on sent que c'est grave et que ça démarre et que ça va être formidable, quoi. Dès l'attaque, la voix de Félix, extraordinaire. Et je me dis, voilà, ce type arrive en 49-50 en France et chante. Mais il est évident que les gens qui étaient dans la salle devaient être saisis, quoi, par la force de cette voix, par l'humanité qu'il y avait dans cette voix, quoi, et quand je dis humanité, c'est-à-dire que c'est pas trafiqué du tout, il n'y a aucun effet, ça démarre avec une intensité dans la voix, qui c'est tout. Moi, on m'explique que Félix était un Canadien, vous voyez bien, pittoresque, ou ce que je sais, qui chantait ceci, non. À mon avis, les gens, à la deuxième note, ils savaient que c'était un grand homme, quoi. À la deuxième note, quoi. Donc voilà, c'est tout. Moi, j'ai écouté ça, là, et aussitôt, je me suis repoussé 50 ans derrière. Je me suis dit, mais c'est évident, quoi, qu'il y avait une personnalité et une manière de considérer le chant et la chanson, une manière, une morale, quoi.
Je me souviens, ma mère m'aimait, et je suis en galère. Je me souviens, ma mère disait, mais je n'ai pas cru ma mère. Ne traîne pas dans les ruisseaux, bats pas comme un sauvage. T'amuse pas comme les oiseaux, elle me disait d'être sage. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je voulais courir la chance. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je voulais que chaque jour soit dimanche. Je me souviens, ma mère pleurait dès que je passais la porte. Je me souviens comme elle pleurait, elle voulait pas que je sorte. Toujours, toujours, elle disait, t'en vas pas chez les filles, fais donc pas toujours ce qui te plaît. dans les prisons il y a des grilles. Un jour les soldats du roi t'amèneront aux galères. Tu t'en iras droit par toi, comme ils ont amené ton père. Tu auras la tête rasée, on te mettra des chaînes, t'en auras les reins brisés, et moi j'en mourrai de peine. Toujours, toujours tu rameras quand tu seras aux galères. Toujours, toujours tu rameras, tu penseras peut-être à ta mère. J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais j'ai pas cru ma mère. Et je me souviens qu'elle m'aimait pendant que je rame aux galères.
Le Galérien par Félix Leclerc, la deuxième des 10 chansons choisies par Jacques Bertin que nous retrouvons dans Le Temps ne fait rien à l'affaire sur Marmite FM 88.4 avec comme troisième titre La complainte du partisan, à propos de laquelle notre invité du jour a encore des choses à raconter.
Pendant la guerre, à Londres, donc, une Russe d'origine, qui s'appelle Anna Marley, fréquente, quoi, les groupes de la France libre. Bon, Kessel, Druon, Dastier, tous ces mecs-là, les gens qui font de la radio, tout ça, elle fait des chansons avec eux, tout ça. Bon. Donc, elle écrit une série de chansons, dont deux sont célèbres, dont deux au moins sont célèbres. Donc le chant des partisans, bien sûr, donc paroles de Kessel et Druon, et musique d'Anna Marley, et une autre chanson qui est La complainte du partisan. Donc les paroles sont de Emmanuel Dastier de la Vigerie et la musique d'Anna Marley. Bon, des années plus tard, Léonard Cohen, qui est un Québécois de Montréal, né à Montréal, c'est pas du tout un Américain au sens, hein, bon. C'est un Québécois d'origine anglophone certes, mais qui habite à Montréal et qui a encore aujourd'hui sa maison à Montréal. Cohen, m'a-t-il dit, parce que je suis allé l'interviewer, Cohen, quand j'ai fait mon bouquin, ma biographie de Félix Leclerc. Léonard Cohen, qui donc me dit, j'ai trouvé dans un book, comment ils disent ça, un livre de chansons, songbook, je ne sais pas quoi, un livre de chansons américain. Donc c'est curieux, hein, la chanson de Anna Marley, donc La complainte du partisan. Et il en fait une adaptation, et il fait avec ça un succès mondial, hein, parce que c'est une très belle adaptation. Et il change un peu la musique et il change un peu les paroles. Voilà. Bon. Donc l'intérêt de la chose, c'est que, d'abord, premièrement, toute l'histoire, qui est une histoire, moi, que je trouve sympathique et passionnante, qui dit que les choses durent plus longtemps que ce qu'on croit, hein, d'abord, et que ça circule, et puis que vous voyez que ça revient par les États-Unis, alors que c'est parti de Londres pour les résistants français, quoi. C'est étonnant, quoi. Hein, bon. Et aussi que Cohen a fait une très belle version, mais qui n'est pas tout à fait la bonne. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? C'est pas grave.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadows.
Donc Anna Marley, quelques années après, a publié un petit livre que j'ai ici d'ailleurs, de mémoire, dans lequel il y avait un petit CD où elle interprétait, entre autres, sa propre version sifflée et chantée avec sa guitare de cette chanson que je trouve très, très émouvante, voilà, et qui ressemble de loin, on va dire, hein, à celle de Cohen, mais qui est également très très belle. Voilà pour la complainte du partisan. Il y a encore une histoire assez rigolote quand même, c'est que, alors si on a le temps, et puis vous couperez si vous voulez. Quand j'étais à Politis il y a quelques années, c'était l'anniversaire de je ne sais plus quoi, quelle fête, peut-être le 50e anniversaire de l'appel du 18 juin peut-être. 4 et 5, 9, ça ferait juin 90, c'est très possible. Donc je dis, je vais aller faire un petit reportage sur ça, me voilà à Londres, à l'anniversaire quoi, qui se passait au Royal Albert Hall, qui est une salle extraordinaire, extraordinaire. On était 5 ou 6 journalistes au 12e balcon, et il y avait devant nous en bas, là, 3000 résistants français, Charles Pasqua, est-ce que je sais, tout le monde était là, c'était très émouvant, Druon, bien entendu, et plein d'autres, bon. La reine d'Angleterre, enfin c'était tout à fait émouvant, sensationnel, quoi. Tout d'un coup arrive la reine d'Angleterre, et puis etc., on chante le chant des partisans, c'était... voilà. Et bon, moi je prends des notes, et puis je demande aux résistants que je croisais par là, ici et là, dans les couloirs, si on savait si Anna Marley était là, où elle était, personne ne savait, elle avait complètement disparu, apparemment, je ne sais pas, moi. Je rentre bredouille, mais peu importe, j'avais mon reportage. Et le lendemain matin, je me pointe à l'aéroport et je vais faire tamponner mon billet, quoi. Hein, bon. Et je me trouve dans la file des gens au guichet, là, de tamponnage des billets, avec Maurice Druon, avec un chapeau melon, d'ailleurs, à l'anglaise, qui était très chic, très bien. Voilà, je me suis dit, écoutez, monsieur Druon, c'est pas mon style d'aborder les ministres. Hein. Enfin, il n'était plus ministre. Hein. Enfin, bref, c'est pas tout à fait mes relations habituelles, Maurice Druon. Mais enfin, je trouvais ça sympa. J'ai dit, ah, monsieur Druon, permettez-moi excusez-moi de vous importuner, mais hier soir, nous étions, vous et moi, au même endroit. Ah, il me fait, c'est formidable. Hein. Très sympathique, Druon. Donc, si j'avais une discussion avec Druon, probable qu'on s'engueulerait assez vite sur des problèmes politiques, mais probable aussi qu'on serait d'accord sur plein de choses si on voulait s'en donner la peine. Hein. C'est ça, quoi, la vie. Bon. En tout cas, là, c'était un homme extrêmement sympathique. On a bavardé. Et il me dit, vous savez, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait comme impression quand vous avez écrit une chanson, Le Chant des Partisans, et de voir que 3000 personnes se lèvent et se mettent au garde à vous. Je lui dis, oui, je peux pas l'imaginer, mais je veux bien le croire. Bon, et c'est vrai. Puis alors, bon, on bavarde un peu, et je lui dis, ben voilà, moi je cherchais Anna Marley, oui, je sais pas où elle est, ce qu'elle est devenue, tout ça. Ben, je dis, parce qu'il y a une autre chanson, La Complainte du Partisan. Alors, il me dit, ah, oui, c'est très beau. Mais il me dit, vous savez, j'ai écrit une strophe de La Complainte du Partisan. Alors, attends, là, j'arrête, et donc, à vous qui m'interviewez, là, je vous garantis l'authenticité de tout ça. Donc, à partir de là, hein, je lui dis, La Complainte du Partisan, ah oui, c'est une très belle chanson, me dit-il, mais, vous savez, j'ai écrit une strophe, moi, de ça. Ben, je lui dis, je croyais que c'était d'Astier. Hein, il dit, non, mais oui, mais moi, j'ai écrit une strophe. Ah, bon, lui dis-je, mais laquelle? Et il me dit, la dernière. Ah, bon. Et donc je fais mon papier en rentrant après, et je publie mon papier, et mon texte dit ceci, et alors je reprends les propos de Druon, et moi mon commentaire de journaliste c'est, la strophe en question c'est, le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera, nous rentrerons dans l'ombre, et je conclue, c'est la plus belle. Et de fait c'est la plus belle strophe. Alors, bon, j'en sais pas plus. Soit il est très menteur, soit il a beaucoup de goût, quoi. Hein, il a pigé, il est très talentueux. Mais alors, l'histoire se continue, c'est que quelques temps après, justement, Anna Marley, je publie mon papier, très bien, et je lui envoie avec un petit mot, parce que j'estimais que c'était sympathique, et il me répond un petit mot très sympathique, voilà, bon, puis ça s'arrête là. Je ne l'ai jamais rencontré de ma vie ailleurs. Et quelques temps après, Anna Marley donc, publie son petit bouquin, là, donc son livre de mémoire, chez Talendier. Et il se trouve que, pour faire un papier aussi, le signaler, ce que je sais, j'appelle l'attaché de presse de Talendier. Elle me dit, ah ben écoutez, je suis justement à côté. Donc, elles étaient, Anna Marley et l'attaché de presse, elles étaient en train de faire une signature quelque part, quoi, bon. Alors, je dis, j'aurais bien dit quelques mots à Madame Anna Marley. Elle m'a dit, elle ne peut pas parce qu'elle est en train de signer, donc elle ne peut pas la déranger. Je dis, bon, tant pis, c'est pas grave. Bon. Mais je lui dis, demandez-lui quand même quelque chose. Alors, je lui dis, je vous raconte une histoire et vous allez lui raconter après. Je lui raconte l'histoire de Druon à l'aéroport et de ce qu'il m'avait dit et ce que j'ai mis dans mon papier. Alors, elle me dit, bon, ne quittez pas, je vous reviens dans un instant. Et il se passe un blanc. Donc elle va raconter l'histoire à Anna Marley. Et elle revient et elle me dit, Anna Marley a simplement dit, ce Druon, il est toujours aussi... Alors là, j'ai pas noté le mot. Mais ce Druon, en gros, c'est toujours aussi fantaisiste ou inventeur ou... Voilà. Bon, mythomane, où est-ce que je sais? Donc je ne sais pas la vérité véritable. Mais pour l'histoire, je peux dire que Druon devant moi, mot à mot, a dit que la dernière strophe du chant de la complainte du partisan, elle était de lui. Voilà. Mais Anna Marley a laissé entendre que c'était peut-être pas tout à fait vrai. À mon avis, c'était qu'il faisait des chansons, vous savez, de bric et de broc dans les bistrots, peut-être dans une table de bistrot comme ça, trois ou quatre, c'est peut-être ça aussi. Hein, puis qu'on se rappelle plus après qui a fait quoi, et que c'est pas si important que ça non plus. Parce que là, par exemple, c'est pas pour faire de l'histoire, on va dire, méchante que je fais ça, c'est parce que c'est rigolo, quoi. Hein. Bon, et à part ça, c'est une très belle chanson, très émouvante.
Un soir de guerre à Londres, des Français venus de France apparurent mystérieusement. Ils avaient à peine un nom, point d'uniforme, et parlaient de choses étranges qui semblaient des rêves ou des chansons. Ils étaient de la Résistance. Le premier qui fut parachuté en France emporta le disque de cette chanson, mais son avion tomba dans le faisceau ennemi et le disque se brisa dans les airs à 8000 mètres d'altitude au-dessus de la France. L'homme, heureusement, fut sauvé. Il transmit la chanson de vive voix quand même, et l'écho s'en alla, la répétant. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans la prison des frontières. Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés, l'ennemi il a su. Il est mort sans surprise. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera, nous rentrerons dans l'ombre.
Vous êtes toujours sur Marmite FM 88.4 dans le temps ne fait rien à l'affaire et nous retournons sur les bords de Loire à Chalonnes chez Jacques Bertin qui nous parle de ses 10 chansons qu'il a choisies pour vous. Et après cette complainte du partisan longuement commentée d'Anna Marley et son adaptation par Leonard Cohen, eh bien on va retrouver Cohen mais cette fois avec une œuvre originale du poète québécois, adaptée cette fois-ci en français par un néo-zélandais de passage, Graham Allwright. Alors évidemment, tout le monde connaît les nombreuses adaptations des chansons de Cohen par Graham Allwright, et celle que Jacques Bertin a retenue est l'une des plus connues, The Stranger's Song, en français, L'étranger.
Ouais, parce qu'avec mon copain Veilloté, alors je dis ça pour vos auditeurs, j'ai un très bon ami à moi, Pierre Veilloté, qui était un journaliste écrivain, et qui est de Bordeaux et qui a été rédacteur en chef de Sud-Ouest Dimanche pendant des années. Bon, ça fait 35 ans qu'on est copains. Il est président de Reporters sans frontières en ce moment. Je dis ça pour le situer un petit peu. Et on passait beaucoup de temps ensemble dans les années 80-90 et il nous arrivait de jouer, de dire quelle est la plus belle chanson du monde, quoi. Donc forcément, ça dépendait des jours. Donc... des fois, c'était la chanson de Tessa, pour l'un ou pour l'autre. Hein. Des fois, c'était, ce que je sais, moi, pour d'autres raisons à chaque fois. Oui, mais celle-ci, plus ceci, maintenant que la jeunesse a beaucoup circulé, etc. Et il y avait quand même... Alors, on était assez d'accord sur beaucoup de chansons. Et L'étranger de Cohen était très souvent quand même en première place, quoi, hein, L'étranger. Parce que c'est tout à fait extraordinaire, par le contenu, mais aussi par l'écriture, par la manière d'être interprété. Par la force qu'il y a, comment dirais-je, par la force qu'il y a dans le texte, quoi. C'est-à-dire, ça n'existe pas de faire des chansons comme ça. Ça n'existe pas, quoi. Si vous allez prendre les professionnels, ils vont vous dire t'es malade ou quoi. Faut pas faire ça. Il y a ça aussi, hein. Faut pas faire ça parce qu'il faut faire des chansons comme ci, comme ça, hein, longues, courtes, avec des phrases courtes, avec des couplets, des refrains, des machins. Et l'autre, là, qu'est-ce qu'il nous raconte ? On comprend rien. On comprend rien. Mais on comprend tout en même temps. C'est ça qui est sensationnel, c'est qu'on est dedans, c'est très émouvant, et on s'y voit, quoi. Hein. C'est nous, c'est moi, c'est etc. Et en même temps, c'est magnifiquement écrit, c'est plein de, comment on appelle ça, pas de coq à l'âne, mais c'est plein de sauts, de trucs, ça n'a pas de rapport, qu'est-ce qu'il dit, mais en même temps, on ne perd jamais le fil. Non, c'est formidable.
It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. Now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the game he knows for shelter. Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling just like smoke above his shoulder. You tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open, you can't close your shelter. You try the handle of the road, it opens. Do not be afraid, it's you, my love, you who are the stranger. It is you, my love, you who are the stranger. Well, I've been waiting, I was sure we'd meet between the trains we're waiting for. I think it's time to board another.
Please understand I never had a secret chart to get me to the heart of this or any other matter. Well, he talks like this, you don't know what he's after. When he speaks like this, you don't know what he's after. Let's meet tomorrow if you choose upon the shore beneath the bridge that they are building on some endless river. Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm. You realize he's only advertising one more shelter. And it comes to you, he never was a stranger. And you say, okay, the bridge or someplace later. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger.
Premièrement, je suggère donc d'écouter la version de Cohen, et ensuite la version de Graham Allwright, qui fait une traduction remarquable et qui retrouve très très bien le ton et le contenu, quoi. Alors, je ne veux pas rentrer dans la technique là, mais quand je fais des ateliers des fois où je parle de la chanson à des gens, et je prends très souvent comme exemple une des phrases de L'étranger, traduction par Graham Allwright, pour montrer quoi, comment ça fonctionne, l'accent tonique, les machins, pour la compréhension et tout. C'est une réussite magnifique, d'autant plus que c'est fait par un anglophone. Hein. Alors Graham Allwright, je le dis pour les plus jeunes, était un type qui est... toujours vivant, bien entendu. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, Graham Allwright. Hein. Vous mettez ici même une affiche de Graham Allwright, une affiche, là, sur la place, et vous aurez 300 personnes. Quoi. C'est rarissime, les gens comme ça. C'est rarissime. Ils passent jamais à la télé, et il y aura 300 personnes. Hein. J'en connais peu. Hein.
Tous les hommes que tu as connus te disaient qu'ils ne voulaient plus donner les cartes prises comme dans un piège. C'est dur de retenir la main d'un homme qui cherche plus loin, qui veut atteindre le ciel pour se livrer. Et qui veut atteindre le ciel pour se livrer. Puis ramassant les cartes qui sont restées là sur la table, tu sais qu'il t'a laissé très peu, pas même sans rire. Comme tous les joueurs, il cherchait la carte qui est si délirante qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Un jour penché à ta fenêtre, il te dira qu'il veut renaître au monde que ta tendresse lui cache. Et sortant de son portefeuille un vieil horaire de train, il dit, je t'avais prévenu, je suis étranger. Je t'avais prévenu, je suis étranger. Maintenant un autre étranger semble vouloir que tu ignores ses rêves comme s'ils étaient le fardeau de quelqu'un d'autre. Tu as vu cet homme déjà donner les cartes avec son bras en or, mais maintenant tu vois sa main est figée.
Oui, maintenant tu vois sa main est figée. Mais tu n'aimes pas regarder un autre homme fatigué déposer toutes ses cartes comme une défaite, tandis qu'il rêve jusqu'au sommeil. Dans l'ombre, tu vois comme une fumée une route qui monte derrière sa tête. Une route qui monte derrière sa tête. Tu lui dis d'entrer, de s'asseoir, mais en te retournant, tu vois que la porte de ta chambre reste ouverte. Et quand tu prends sa main, il dit : N'aie pas peur, ma tendre amie, ce n'est plus moi, oh mon amour. Ce n'est plus moi, oh mon amour, l'étranger. J'ai attendu toujours certain de te revoir entre les trains. Bientôt il va falloir en prendre un autre. Oh, je n'ai jamais eu, tu sais, pas le moindre plan secret. Ni personne peut me conduire. Et tu te demandes ce qu'il cherche à dire. Oui, tu te demandes ce qu'il veut dire. En bas au bord du fleuve, demain je t'attendrai, si tu veux bien, là tout près du pont qu'ils construisent. Puis il quitte le quai pour un wagon-lit. Tu sais qu'il cherche un autre abri, qu'il n'avait jamais été un étranger, qu'il n'avait jamais été un étranger. Et tu dis d'accord, le pont ou bien ailleurs, je viendrai. Puis ramassant les cartes qui sont restées là sur la table, tu sais qu'il t'a laissé très peu, pas même sans rire. Comme tous les joueurs, il cherchait la carte qui est si délirante qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Un jour, penché à ta fenêtre, il te dira qu'il veut renaître au monde que ta tendresse lui cache. Et sortant de son portefeuille un vieil horaire de train, il dit : Je t'avais prévenu, je suis étranger. Je t'avais prévenu, je suis étranger. Je t'avais prévenu, je suis étranger. Je t'avais prévenu, je suis étranger.
Voilà donc avec l'étranger dans cette version de Graham Wright après l'original de Leonard Cohen. Bah, nous voici au bout de cette heure d'émission. Nous allons donc nous quitter pour aujourd'hui, laisser provisoirement suspens notre entretien avec Jacques Bertin et l'écoute des 10 chansons qu'il a posées sur sa liste. Bah, je vous propose donc de nous retrouver mercredi prochain sur l'antenne de Marmite FM 88.4 un peu après 18h pour une nouvelle livraison du temps de Ferian à l'affaire qui nous ramènera sur les bords de Loire à Chalonne avec Jacques Bertin. Et bien sûr, bah, on va terminer cette première heure comme on l'a commencé, avec lui. Merci à Issa qui était aux manettes aujourd'hui. Salut, c'était Jean-François. Et à mercredi prochain.
Vous ne pouvez savoir comme ce son du piano étouffé au fond des salons cossus des demeures. Sous des lueurs, on suppose de lampes d'une belle époque et des murmures apaisés. Vous ne pouvez savoir comme ce son du piano presque éteint, hésitant sur le seuil de mon front, me défait. Ou pose sur mes lèvres, sur le seuil, un désir de baiser ou de fraîcheur. « La grand-mère bien douce qui régnait sur les meubles cirés, conservant dans des carnets bleus l'histoire des années. Un mort hier, un père absent, une mère plus belle que la mère du roman ou de la chanson des lieurs. Le retrouve pour l'amour calme et les velours semblent fermer une âme où je suis entré sans être invité. Jamais on entend le piano où s'appliquent les doigts d'une petite sœur. Et j'y meurs, j'y meurs, tandis que se défont des orages plus loin, ailleurs.